Orange Cyberdéfense.
The cyber threat analyses you need to know about. Cyber decryption. It's now.
Bienvenue à cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un acteur assez marquant du cyberespace actuel, le groupe activiste Kimus+.
Oui, c'est un nom qui revient de plus en plus. Leur influence, comme celle d'autres groupes du même type, elle pèse vraiment sur la géopolitique numérique.
C'est ça. Et comprendre comment ils fonctionnent, ça devient essentiel.
Tout à fait. Et pour essayer de décrypter Kimus+, on va s'appuyer sur une analyse assez fouillée qui a été réalisée par le Cyber Intelligence Bureau.
Ah oui, le Cyber Intelligence Bureau, une division du laboratoire d'épidémiologie d'Orange Cyberdéfense.
Exactement. C'est une structure spécialisée.
Et leur approche est intéressante. Le rapport, il combine des infos open source, l'OSINT comme on dit, mais aussi du renseignement humain, le HUMINT.
Oui, et ils vont plus loin. Ils ajoutent des analyses de contexte, d'informations, même émotionnelles et cognitives, et géopolitiques pour avoir une vue d'ensemble.
Un point important qu'ils soulignent, c'est la neutralité de leur approche.
Absolument. Le but ici, c'est de comprendre, pas de prendre parti. Donc on va explorer ensemble qui est Kimus+, leurs méthodes, techniques bien sûr, mais on va surtout creuser l'aspect psychologique.
C'est ça qui est fascinant. Leur utilisation de l'intelligence émotionnelle, cognitive, la PNL aussi, la programmation neurolinguistique, et puis ce modèle SWIFT.
Voilà, c'est l'objectif de notre discussion aujourd'hui.
Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Qui sont-ils, Kimus+? D'où est-ce qu'ils viennent?
Alors le groupe est plutôt récent, son apparition publique ça remonte à fin 2023. A priori, les origines, ce serait l'Afrique du Nord, principalement l'Algérie.
D'accord. Né comment ?
Ce serait parti d'un petit collectif de codeurs, dans un contexte, il faut le dire, déjà tendu sur le plan cyber, entre l'Algérie et le Maroc. Et puis, il y a eu la mobilisation activiste autour de la crise à Gaza, qui a sans doute joué un rôle d'accélérateur.
Et leur première action marquante, revendiquée publiquement ?
C'était en novembre 2023. Une attaque DDoS, donc une attaque par déni de service, contre un portail de e-visa marocain. Ça a été leur, leur acte de naissance médiatique.
D'accord. Et depuis, sur le plan technique, c'est quoi leur marque de fabrique ?
Clairement, ce sont les attaques DDoS à très gros volume. C'est vraiment leur outil principal. Ils n'hésitent pas d'ailleurs à utiliser des plateformes commerciales qui louent ce genre de capacité. Le rapport mentionne Elite Stressor, par exemple.
Ah oui, des services de stress testing détournés, en quelque sorte.
C'est un peu ça. Et ce qui est notable, c'est qu'ils ciblent délibérément des secteurs critiques, l'industrie, le manufacturier notamment. Ils ont visé par exemple des entreprises manufacturières en Israël.
Dans quel but ? Juste la perturbation ?
L'objectif affiché, c'est de perturber les chaînes de production, de créer des retards, des goulots d'étranglement. Donc, oui, une volonté de nuisance économique très concrète.
Et ils se contentent des DDoS ?
Pas toujours. Pour maximiser l'impact, ils ajoutent parfois d'autres actions. Un peu d'exfiltration de données ou du défaçage de sites web. Changer la page d'accueil, quoi.
Tout ça pour la visibilité médiatique et l'impact psychologique, j'imagine.
Exactement. C'est une stratégie à plusieurs niveaux.
Et comment ils justifient tout ça ? Quelles sont les motivations qu'ils mettent en avant ? Le rapport parle de géopolitique ?
Oui, le discours officiel est très axé là-dessus. Il parle de solidarité pan-arabe, se regroupe sous des bannières comme Hack for Humanity. Ils affichent un soutien très fort à la cause palestinienne et une opposition à ce qu'ils appellent l'influence occidentale.
Il y a aussi la rivalité régionale avec le Maroc, hein ?
Tout à fait. C'est une autre composante. Les attaques contre le Maroc sont souvent présentées comme une défense de la souveraineté numérique algérienne.
Mais le rapport semble dire que cette façade idéologique... elle pourrait cacher autre chose.
C'est une des hypothèses fortes, oui. Les analystes du bureau parlent d'un caractère potentiellement hybride, c'est-à-dire que ces motivations géopolitiques, qui peuvent être sincères pour une partie des membres, pourraient aussi, masquer des objectifs plus...
commerciaux.
C'est-à-dire, notamment des opérations de DDoS as a service, vendre leur capacité d'attaque DDoS sous couvert d'activisme. L'un n'empêche pas l'autre, en fait.
D'accord. Une sorte de double casquette. C'est intéressant. Et au final, qui sont les principales victimes de leurs opérations ?
Le spectre est assez large, mais on voit des cibles récurrentes. Les gouvernements européens, la France et l'Allemagne surtout, via des portails locaux. Le secteur de l'éducation aussi est pas mal touché. Des universités en France, au Danemark, en Suède.
D'autres secteurs ?
Oui, les télécoms sont aussi régulièrement visés. Et puis, y a les infrastructures critiques.
Ah oui, ça c'est plus inquiétant.
Effectivement, le rapport mentionne le ciblage du réseau électrique français RTE, ça montre une volonté de s'attaquer à des points vraiment névralgiques. Plus ponctuellement, on voit aussi des médias, la finance et encore le secteur manufacturier en Suède ou en Allemagne.
Et si on devait résumer les pays les plus touchés ?
D'après le rapport, ce serait principalement la France, le Maroc et Israël.
D'accord. Bon, on a une bonne idée de leurs actions techniques, de leurs cibles. Mais revenons à ce que vous disiez au début, l'aspect psychologique. Le rapport insiste beaucoup là-dessus. Comment ils font pour influencer au-delà de la technique pure ?
Et c'est là, je pense, que Kaimous Plus se distingue. Ils ne font pas que saturer les serveurs. Ils travaillent activement sur les perceptions, les émotions. C'est vraiment un volet clé de leur stratégie, surtout pour recruter et maintenir la cohésion du groupe.
Alors, concrètement, comment ils utilisent l'intelligence émotionnelle ? Vous avez des exemples ?
Oui, un exemple très parlant, c'est ce que le rapport appelle le « recadrage cognitif ». En gros, ils présentent systématiquement leurs attaques, même les plus destructrices, pas comme du vandalisme, mais comme des actes de résistance héroïque.
Ah oui, changer le cadre de lecture de l'action.
Exactement. « Victoire pour l'humanité », ce genre de terme. Psychologiquement, ça a un double effet. D'abord, ça réduit la dissonance morale chez les membres. On ne se sent pas coupable si on fait quelque chose de juste. Ensuite, ça vise à obtenir un soutien extérieur, à façonner une image positive.
Ils maîtrisent leur communication, leur storytelling en quelque sorte.
C'est ça. Un autre levier émotionnel, c'est la preuve sociale. Kaimous Plus communique énormément sur ses alliances. Ils mettent en avant des chiffres impressionnants. Plus de 70 groupes partenaires, etc.
Dans quel but ? Impressionner ?
Oui. Créer une impression de puissance collective, presque irrésistible, et de légitimité par le nombre. Si autant de monde les soutient, c'est qu'ils doivent être dans le vrai, c'est l'idée sous-jacente. Ça joue sur le conformisme.
Et ça doit aider pour le recrutement, j'imagine.
Énormément. Ça rassure les recrues potentielles. Elles se disent qu'elles rejoignent un mouvement fort, qui a du succès.
Le rapport utilise aussi un terme assez fort, « grooming ». Ça fait un peu froid dans le dos. Qu'est-ce que ça signifie dans ce contexte précis ?
Oui. C'est probablement leur tactique la plus troublante sur le plan émotionnel. Via des discussions privées, sur Telegram par exemple, les recruteurs de Kaimous Plus vont activement chercher à identifier les frustrations, les colères, parfois même les traumatismes personnels des recrues potentielles.
Et ensuite ?
Ensuite, ils vont consciemment refléter ces émotions, montrer une empathie très ciblée, très calculée, pour créer un lien très fort, une sorte de sentiment d'appartenance quasi familiale.
Une manipulation émotionnelle profonde, donc.
Oui, le but est clair. Fidéliser à l'extrême, limiter les défections et surtout canaliser ses angoisses personnelles vers l'action collective pour le groupe, avec une très forte loyauté à la clé.
C'est glaçant. On voit bien comment ils jouent sur l'émotionnel. Mais quid de l'intelligence cognitive ? Comment ils manipulent les processus de pensée ?
Là aussi, ils ont des outils spécifiques. Le rapport met en avant le modèle SWIFT. C'est un acronyme Stop, Watch, Investigate, Find, Tell. Arrêter, observer, enquêter, trouver, raconter.
Et comment Kaimous Plus l'utilise-t-il ?
Il l'applique comme une procédure, un processus structuré pour revendiquer leurs opérations très rapidement. Et surtout, pour imposer immédiatement leur propre récit, leur version des faits dans l'espace public.
Une sorte de cellule de communication de crise, mais inversée, au service de l'attaquant.
On peut voir ça comme ça, oui. Ça leur donne l'avantage de la première narration, une narration structurée, rapide. Ils contrôlent le flux d'infos dès le départ et maximisent leur influence, juste après une attaque.
Malin ! Et la PNL, la programmation neurolinguistique, elle intervient où là-dedans ?
La PNL, elle est plutôt utilisée dans leurs écrits, les manifestes, les messages de recrutement. Ils emploient des tournures de phrases, des schémas linguistiques qui sont étudiés pour être persuasifs.
Par exemple ?
Par exemple, en calquant, c'est un terme de PNL, subtilement le vocabulaire, le ton émotionnel, ou même les préoccupations qu'une recrue potentielle a pu exprimer dans un échange privé. L'idée, c'est de créer très vite un sentiment de connexion, de compréhension mutuelle. Cette personne me comprend parfaitement.
Ce qui facilite ensuite le grooming dont on parlait.
Exactement, ça prépare le terrain.
C'est vraiment élaboré comme approche, mais comment ils font pour que ça tienne ? Pour que les membres restent convaincus, même s'il y a des informations contradictoires qui circulent ?
Ah, ça c'est le rôle d'une autre tactique cognitive, le renforcement actif du biais de confirmation.
Expliquez-nous.
Kaimous Plus gère très soigneusement les informations qui circulent sur ses propres canaux, réseaux sociaux, groupes de discussion internes. Il sélectionne et il diffuse en priorité des éléments, des preuves, souvent biaisées ou sorties de contexte, qui vont dans le sens de leur vision du monde.
Comme quoi, par exemple ?
les atrocités supposées commises par leurs ennemis, la prétendue complicité des gouvernements qu'ils attaquent, tout ce qui peut confirmer et renforcer les croyances déjà existantes chez leurs membres, souvent déjà radicalisées.
Ça crée une bulle informationnelle, une chambre d'écho ?
C'est tout à fait ça. Une chambre d'écho où le discours du groupe est constamment validé. Ça rend les membres de plus en plus imperméables à toute information extérieure qui pourrait contredire ce discours. La loyauté est verrouillée.
Redoutable comme mécanisme. On a mentionné les alliances pour la preuve sociale. Est-ce que ces partenariats ont aussi un impact plus direct, plus opérationnel ?
Ah oui, tout à fait. C'est un véritable multiplicateur de force pour eux. Ce n'est pas juste pour l'image.
Concrètement.
Sur le plan opérationnel, ces alliances leur permettent d'étendre leur portée géographique et surtout d'augmenter considérablement le volume de leurs attaques, notamment des DOS.
Vous pouvez nous donner quelques exemples de ces alliances sans forcément faire une liste exhaustive ?
Bien sûr. Le réseau est assez varié. Il y a des partenariats très tactiques, centrés sur l'amplification des attaques des DOS. Le rapport cite No Name 0576, qui est connu pour ses opérations pro-russes, ou encore MRIOM 444, un allié proche pour des opérations conjointes, notamment pro-Palestine.
Il y a aussi des motivations idéologiques communes ou régionales ?
Oui, avec des groupes comme Al-Mujahideen Force 313, basé au Pakistan, ou Moroccan Dragons, pour des opérations ciblant l'Afrique du Nord. On trouve aussi des collaborations plus opportunistes, peut-être, avec des collectifs européens comme Firewire, qui peuvent apporter un soutien ponctuel, de la reconnaissance, des proxys.
Donc un réseau assez complexe.
Oui. Et l'essentiel à retenir, c'est que ce maillage démultiplie leur capacité d'action globale et renforce cette fameuse tactique de la preuve sociale. Plus ils ont d'alliés, plus ils paraissent puissants.
Alors, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, quelle est l'image globale de Kimos Plus qui se dégage de cette analyse ?
L'image, c'est celle d'un acteur de menace complexe. Le rapport utilise le terme hybride. Hybride parce qu'on a ce mélange entre un discours activiste, très politisé, la solidarité panarabe, la cause palestinienne, et ses soupçons d'activités plus mercenaires, comme la vente de services des DOS.
Et techniquement, leur point fort, c'est le DDoS massif et l'exploitation des fuites de données pour l'impact.
C'est ça. Mais ce qui est peut-être le plus frappant, et le rapport insiste là-dessus, c'est vraiment la sophistication de leur tactique psychologique.
Oui, cette utilisation de l'intelligence émotionnelle et cognitive.
Absolument. L'utilisation consciente, méthodique, de l'intelligence émotionnelle. Le recadrage pour se donner le beau rôle, la preuve sociale pour impressionner, le grooming pour créer une loyauté quasi absolue. C'est vraiment au cœur de leur fonctionnement.
Et couplé à la manipulation cognitive.
Oui, avec le modèle SWIFT pour contrôler le récit post-attaque, la PNL pour persuader plus finement et ce renforcement constant du biais de confirmation pour maintenir la cohésion idéologique. C'est cette combinaison de nuisances techniques et de guerre psychologique amplifiée par leur réseau d'alliances qui fait leur spécificité et, il faut le dire, leur dangerosité.
Pour conclure, le rapport du Cyber Intelligence Bureau ouvre une petite fenêtre sur l'avenir. Il note une tendance qui pourrait émerger. L'intérêt potentiel de groupes comme Kimos Plus pour l'intelligence artificielle, même de façon basique pour l'instant.
Oui, pour aider à repérer des cibles, pour automatiser certaines tâches d'attaque, ou même pour coordonner la propagande. C'est une évolution assez logique, mais préoccupante.
Tout à fait. Ça nous laisse peut-être avec une question pour la réflexion. Comment est-ce que l'intégration, même simple d'au début, de l'IA dans l'arsenal de ces groupes pourrait changer la nature et surtout l'échelle des conflits idéologiques dans le cyberespace demain ?
C'est une excellente question, une interrogation ouverte qui montre bien que ce paysage est en perpétuelle évolution.
Absolument.
Et rappelons que toute cette analyse approfondie a été rendue possible grâce au travail du Cyber Intelligence Bureau, qui est donc une division du laboratoire d'épidémiologie de Range Cyberdéfense.
The cyber threat analyses you need to know about. Cyber decryption. We'll be talking about it on this channel very soon.
Orange Cyberdéfense.